Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h. Léo Corcos.
Bonjour à toutes et à tous. 16h30 sur Radio Campus Grenoble, très heureux de vous retrouver pour Microcité, le 13e du nom. Cette semaine, nous avons décidé de vous faire voyager direction le Venezuela. Vous le savez peut-être, le pays est en proie à une grave crise politique. En mai dernier, Nicolas Maduro a été réélu à la tête du pays, un scrutin très contesté. Et un cap a été franchi il y a 2 semaines quand le président du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé chef de l'État par intérim. Il a reçu le soutien d'une partie de l'Amérique latine, des États-Unis et de l'Union européenne, dont la France. Alors comment en est-on arrivé là? Le Venezuela peut-il sortir de la crise et avec qui? On en parle dans une dizaine de minutes avec Florine Boukhelifa et son invité. Puis nous plongerons dans l'histoire d'un lieu singulier, le château des Templiers d'Échirolle. Longtemps daté du XIIe siècle, il nous viendrait en fait du XVIIe, résultat d'une étude menée par la ville. Notre monsieur patrimoine Luc Chemla s'est penché sur les raisons de cette erreur d'appréciation. Il nous guidera à travers l'histoire de ce château. Que vous soyez branché sur le 90.8 ou sur campusgrenoble.org, prenez vos aises, conduisez prudemment si vous nous écoutez en voiture. Nous vous accompagnons jusqu'à 17h, Microcité numéro 13, ça commence tout de suite. Mais avant cela, un petit tour de l'actualité avec Xavier Ponroy. Bonjour Xavier.
Bonjour. Des violences, des passeports diplomatiques, des téléphones portables et maintenant un contrat avec un oligarque russe, l'affaire Benalla continue de rebondir. Retour en début de journal sur les dernières informations d'une affaire qui n'en finit pas d'éclabousser l'exécutif. Recyclé contre un Sunday pour inciter les Grenoblois à mieux recycler leurs bouteilles en verre, l'application Clink lancée il y a 2 mois a décidé de miser sur la carotte ou plutôt la frite de McDonald's. On vous explique tout dans ce journal. Mais à quoi servent exactement les données personnelles? On en entend très souvent parler, on nous demande d'accepter la récolte des données sur les sites. Mais qu'en font ceux qui les récupèrent? Réponse dans un instant avec Olivier Leventrock, spécialiste de la data intelligence. Et puis Grenoble reprend la balle au bon. 2 tournois internationaux de tennis, un masculin, un féminin, la même semaine. C'est une première en France, mais ce n'est pas encore Roland-Garros. On y revient en fin de journal.
Microcité.
L'affaire Benalla ressemble de plus en plus à un roman d'espionnage et son dernier chapitre connu concerne cette fois la Russie. Le parquet national financier a ouvert hier une enquête sur un contrat alliant la société de Vincent Kras, ex-employé de la République en marche, et Iskander Makhmoudov, un oligarque russe à la réputation sulfureuse. Le contrat avait été négocié par Alexandre Benalla du temps où il était à l'Elysée. Selon Mediapart, l'enquête est ouverte pour corruption. Et dans le même temps, la chef du groupe de sécurité du Premier ministre a démissionné hier. Elle est soupçonnée d'avoir permis à Alexandre Benalla et Vincent Kras de se rencontrer alors que les deux étaient sous contrôle judiciaire. Son compagnon, un militaire, a lui été suspendu par le ministère des Armées pour faire la lumière sur son rôle dans la rédaction du contrat russe. Enfin, toujours en ce qui concerne l'affaire Benalla, vous vous rappelez sans doute qu'elle avait commencé par une vidéo prise le 1er mai. Alexandre Benalla y interpellait violemment un couple en marge des manifestations. Ce couple comparaissait aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris pour violence envers des forces de l'ordre. Ils ont été condamnés à 500 euros d'amende.
La tension entre la France et l'Italie va-t-elle retomber?
Hier, Paris a décidé de rappeler son ambassadeur à Rome, un acte diplomatiquement fort. La France veut marquer le coup, ce sont les mots de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Les relations sont désastreuses depuis des mois entre les deux pays. Dernière action vue comme une provocation par la France, la rencontre mardi entre Luigi Di Maio, vice-premier ministre, et des Gilets jaunes, une ingérence inacceptable pour la France. De son côté, le gouvernement italien a tenté de calmer le jeu ce matin en déclarant être prêt à rencontrer Emmanuel Macron. Toutes les idées évoquées lors du grand débat ne seront pas suivies, même celles venant du gouvernement. Lundi, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin proposait une remise à plat des niches fiscales. Proposition écartée par Emmanuel Macron, selon France Info ce matin. Les niches fiscales, pour les particuliers, c'est-à-dire les crédits d'impôt ou les réductions d'impôt, coûtent chaque année 14 milliards d'euros. Le gouvernement revoit à la baisse ses ambitions de lutte contre la consommation d'énergie. Alors que la loi prévoyait une baisse de 20% à l'horizon 2030, le texte présenté au Conseil économique, social et environnemental rabaisse cet objectif et le fait descendre à 17%. La réduction de la part de l'énergie nucléaire à 50% d'ici 2035 est elle aussi confirmée contre 2025, la date prévue initialement.
Des bouteilles contre des bons de réduction.
C'est ce que veut faire l'application Clink pour encourager à mieux trier ses déchets et notamment le verre. Pour chaque bouteille de verre jetée, vous gagnez un point. Et plus vous cumulez de points, plus vous avez de réductions dans les boutiques partenaires, y compris chez McDonald's. Cela fait 2 mois que la métropole teste le dispositif. D'ici à la fin du mois, il y aura 150 conteneurs à verre connectés dans la métropole. Mais l'objectif derrière ça, Aurélien Valarié, c'est aussi de renforcer la vitrine écologique de Grenoble.
La métropole grenobloise a fait appel à l'application Clink, c'est pour une raison bien précise. La ville est une mauvaise élève en termes de tri sélectif. Chaque année, 10 kilos de verre ne sont pas recyclés par les habitants grenoblois. Georges Oudjaoudi, élu métropolitain en charge de la collecte des déchets.
On sait qu'il y a d'autres collectivités qui font mieux que nous. Il y a un aspect aussi culturel sur le geste de tri, puisqu'on est dans une situation où sur la métropole, ce geste est insuffisant. Là où on a un déficit de collecte de verre, c'est dans les quartiers où il y a de la densité.
Et pour sensibiliser ces quartiers, Clink choisit ses boutiques partenaires. Par exemple, pour 20 points récoltés, vous gagnez un sundae à McDonald's. Alors pour une application qui se revendique écologique, ça peut paraître un peu paradoxal. Mais pour Tiffany Henriquez, chargée du développement de Clink à Grenoble, l'explication est très simple.
Pourquoi McDo? Parce qu'il faut être réaliste. Pour attirer les personnes de la Villeneuve ou des Chirolles, c'est avec McDo qu'on réussira à les intéresser et non avec, par exemple, pour commencer, du bio, c'est bon. C'est vrai que McDo n'est pas non plus bien réputé pour le recyclage et tout ce qui est l'écologie, mais c'est notre enseigne phare pour attirer les quartiers un peu sensibles de Grenoble.
Même si l'objectif à terme est de valoriser les producteurs locaux, les grandes enseignes internationales sont donc indispensables pour inciter une certaine partie de la population à trier ses déchets. À ce jour, le territoire grenoblois compte 40 magasins partenaires et l'application a déjà séduit 2300 clinkers.
Reportage à Grenoble d'Aurélia Valarié. Une semaine après son entrée en vigueur, la loi alimentation produit déjà ses effets. Les prix de 100 produits les plus vendus dans les hypermarchés ont augmenté de 4% depuis le 1er février. C'est le résultat d'une étude menée par l'Institut Nielsen dévoilée aujourd'hui. Dans les supermarchés, la hausse est de 2,6% en moyenne. La loi alimentation a pour but de mieux rémunérer les agriculteurs dans leurs relations commerciales avec les grandes surfaces. Et puis toujours en ce qui concerne les prix, attention à ceux de votre forfait de téléphone. Ils pourraient bien augmenter dans les prochaines semaines et sans que vous en rendiez vraiment compte. C'est ce qu'explique l'UFC Que Choisir dans un article publié cette semaine. Vous avez peut-être reçu un SMS ou un courrier vous informant que vous disposiez de nouvelles options, mais cela implique une hausse automatique de votre forfait. Pas de panique toutefois, vous pouvez toujours contacter votre opérateur pour faire le point et refuser ces nouvelles options. Certains appellent ça les mines d'or du 21e siècle. Ce sont les informations sur votre vie privée et vos préférences que récoltent les sites internet et notamment les réseaux sociaux. Le champion de la catégorie, c'est Facebook. Il faut dire que le réseau connaît tout ou presque de nous. Et pour vivre, il revend ses données à des annonceurs. Mais concrètement, à quoi servent ces données? En quoi sont-elles utiles? Réponse avec Olivier Levan-Truoc, spécialiste de la data intelligence au laboratoire Pacte à Grenoble.
Facebook fait plein de choses sur ses membres, sur des caractéristiques de base sociodémographiques, où ils vivent, leur genre, leur âge, même si c'est pas forcément toujours très très juste, ils sont assez pointus, ils savent plein de choses là-dessus. Ils savent aussi plein de choses sur ce qu'ils aiment, ils savent avec qui ils parlent, ils savent quels sont leurs réseaux. Et donc tout ça, évidemment, ça crée des tas de capacités de ciblage publicitaire. Ça fait que vous avez un message publicitaire qui touche plus facilement sa cible principale et qui du coup, en théorie, est plus efficace. Et surtout, vous n'avez pas de la déperdition. C'est-à-dire que si vous faites une publicité à la télévision, par exemple, à un moment donné, bah ok, vous toucherez sans doute une partie de votre cible première, mais vous aurez aussi plein de gens qui ne sont pas dans votre cible. Facebook aujourd'hui est un des énormes leaders du marché publicitaire mondial, au détriment d'ailleurs de grands médias dits traditionnels.
Olivier Levan-Truoc du laboratoire Pacte à Grenoble au micro de Julien Penaud. Jean-Claude Roman restera en prison, condamné à perpétuité pour le meurtre de 5 personnes de sa famille en 1993 dans l'Ain. Celui qui avait menti sur son travail pendant des années, se faisant passer pour un médecin, demandait une libération conditionnelle. Il a déjà purgé les 22 ans de sa période de sûreté, mais le tribunal de grande instance de Châteauroux a estimé que le projet de Jean-Claude Roman après la prison, ainsi que sa personnalité, n'assurait pas un juste équilibre, je cite, entre les intérêts de la société, le droit des victimes et sa réinsertion.
Le football français s'apprête à rendre hommage à Emiliano Sala.
Ce week-end, tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 commenceront par une minute d'applaudissements pour l'ancien attaquant du FC Nantes. Son corps a été découvert hier par la police britannique dans l'épave de l'avion qu'il menait à Cardiff, son nouveau club. Le FC Nantes, lui, a décidé que le numéro 9 que portait l'Argentin ne pourrait être plus porté par un autre joueur. Et après ces applaudissements, le jeu quand même reprendra ses droits. Retour au championnat ce week-end après une semaine de Coupe de France. Marseille se déplace à Dijon ce soir à 20h45. Les Marseillais en pleine crise de résultats, mais qui ont repris goût à la victoire mardi contre Bordeaux. En Ligue 2, Grenoble reçoit Lorient, actuel 3e à 20h au Stade des Alpes. En cas de succès, les Grenoblois se rapprocheraient des places pour la montée en Ligue 1. Et puis, c'est une première en France, un club organise deux tournois internationaux de tennis en même temps. Ça se passe cette semaine dans la salle du Grenoble Tennis, avec une compétition à la fois pour les filles et pour les garçons. Mais attention, on est encore loin de Roland-Garros. Chez les messieurs, le joueur le mieux classé, c'est un Français, Arthur Rinderknecht, 413e joueur mondial. Alors, sans vraie tête d'affiche, les spectateurs sont-ils nombreux ? On voit ça avec Alexandre Lepère.
Il faut le dire, jusque-là, c'est bien calme le long des cours. Seuls les cris des joueurs résonnent. Les spectateurs, eux, restent discrets. Entre 150 et 200 par jour, pour une salle qui peut accueillir 800 personnes, c'est peu. Jacques Fayard est le co-directeur des deux tournois.
Vous faites Roland-Garros, vous avez Nadal, Federer, tout le monde va sur le central Bauer. C'est sûr que si vous mettez là nos joueurs qui sont ici et vous les mettez sur le central à Roland-Garros, il n'y aura personne non plus.
Et le manque d'engouement se ressent aussi chez les jeunes du Grenoble Tennis. Seulement une petite partie est venue mercredi pour taper la balle à l'entraînement avec les joueurs du tournoi. Question pratique pour Alexandre Rollin, entraîneur au club.
Ceux qui font partie de l'école de tennis, loisirs, avec un entraînement par semaine, on va dire on en a entre 150 et 200. Donc la majorité, c'est plutôt la partie loisirs et les compétiteurs sont une petite cinquantaine.
Pas de tête d'affiche, mais plus de proximité et de convivialité.
À la télé, on ne voit pas la rapidité de la balle.
Ces deux tournois à Grenoble ont quand même un charme particulier pour Bernard, venu voir les matchs pour la première fois.
C'est vrai que ça va vite là.
En plus, il y a quatre matchs en même temps.
Exactement, on tourne la tête et... tout est bon.
Le succès populaire se jouera en tout cas ce dimanche, jour des deux finales. Le Grenoble Tennis attend au moins 600 spectateurs.
Un reportage à Grenoble d'Alexandre Lepère.
Merci Xavier et ne vous éloignez pas trop. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
16h41 sur Radio Campus Grenoble. Avant de plonger au cœur de la crise vénézuélienne, une petite pause musicale. Le boss, Bruce Springsteen, dans Microcité, c'était Streets of Philadelphia. 16h44 sur Radio Campus Grenoble. On quitte les États-Unis pour l'Amérique latine. C'est le dossier de la semaine. Le dossier. Le Venezuela est au menu de notre dossier. Le pays s'enlise de plus en plus dans la crise. Et depuis plusieurs semaines, Florine Boukhelifa, des centaines de milliers de manifestants défilent à Caracas, la capitale, et le reste du pays.
Oui, Léo, rien ne va plus dans ce pays d'Amérique du Sud. Actuellement, la population est divisée en deux camps. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent Nicolas Maduro, le président au pouvoir depuis 2013. Il a d'ailleurs été élu pour la deuxième fois l'année dernière. Et de l'autre, ses opposants qui sont de plus en plus nombreux. Le conflit a même pris un nouveau tournant il y a deux semaines, puisque le jeune président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, s'est autoproclamé président par intérim. C'était le 23 janvier dernier. Il réclame le départ du chef d'État actuel et surtout l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Alors aujourd'hui, dans Microcité, nous allons essayer de comprendre comment le pays a basculé dans une telle situation. Pour ça, nous accueillons Hilary Contreras. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes vénézuélienne, vous êtes arrivée en France en 2015 pour vos études. Alors, vous n'étiez pas rentrée dans votre pays avant cet hiver. Vous êtes partie rendre visite à votre famille pour les fêtes et vous êtes rentrée le 21 janvier dernier. Alors, première question, quel pays avez-vous trouvé et quelles sont les différences avec le Venezuela de 2015?
Alors, d'abord, c'était très choquant pour moi de voir la crise économique, la crise humanitaire chez moi. Parce que si bien je suis partie quand ça allait pas, quand je suis partie en 2015, en 2019-2018, c'est un autre pays, la pauvreté elle a énormément augmenté. On le voit quand on parle avec les gens, quand on va faire les courses. Pour moi, pour ma famille, c'est aussi énormément difficile de survivre si on n'a pas quelqu'un à l'étranger qui pourra envoyer de l'argent en dollars pour qu'on puisse acheter à manger chez nous.
Alors, quelques chiffres pour bien comprendre. Il y a 3 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays, 50% de perte de la richesse nationale en 5 ans et une inflation qui pourrait atteindre 10 millions de % d'ici la fin de l'année. Concrètement, comment on vit au Venezuela actuellement?
Alors, je dirais que la moitié des gens vivent avec de l'argent que la famille envoie de dehors, comme je viens de le dire. Par exemple, je suis arrivée avec 50 euros. J'ai changé la première semaine 1 euro pour 900 bolivars. La semaine d'après, j'ai changé 1 euro pour 3000 bolivars. Donc l'inflation, la dévaluation, elle augmente jour à jour. Et les gens, ils ont perdu tout repère de ce qui est cher, ce qui n'est pas cher, ce qu'ils peuvent acheter ou pas. J'ai la famille qui a arrêté de travailler pour se dédier à faire des cultives. Et ce n'est pas toujours possible parce qu'on habite dans un endroit où l'approvisionnement d'eau il est difficile. Donc pour cultiver, il te faut de l'eau que tu puisses utiliser pour faire pousser des légumes, des fruits, etc. Les gens qui ne peuvent pas faire ça, ils galèrent énormément. Il y a des gens qui mangent du riz tous les jours ou des pâtes tous les jours, comme ça, toute la semaine, sans protéines. Et c'est vraiment, vraiment désolant de le voir.
Et est-ce que l'alimentation est dure à trouver ou les médicaments aussi?
On a eu une bonne période de pénurie où il n'y avait rien dans le supermarché. Aujourd'hui, on va dans le supermarché, on en trouve, mais c'est les prix, c'est incroyable les prix, c'est l'Europe. Parfois, c'est même plus cher que l'Europe. On trouve de la bouffe de chien, on va la trouver à 30 euros si on fait l'échange. À 30 euros, et les gens, ils laissent les chiens dans la rue maintenant parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour les nourrir. C'est déjà compliqué, c'est nourrir soi-même. Ma mère, elle gagne un peu plus que le salaire minimum. Son salaire du mois part dans les moins des courses d'une semaine, part avec du jambon, du fromage et du pain. Et du coup, si ce n'est pas parce que mon père est parti dehors qu'il envoie 100 dollars par mois, 200, ce ne serait pas possible. Donc tout le monde part.
Le salaire minimum, c'est combien ?
Si on essaye de trouver, comme je vous dis, il n'y a plus de repère parce que ça change tous les jours. Disons que c'est autour de 5 dollars par mois. Okay. Et avant le début du gouvernement de Maduro, c'était autour de 300. Donc c'est le prix du pétrole, c'est des problèmes, énormes problèmes de gestion de l'économie vénézuélienne. Et c'est un pays qui est riche, entre guillemets, mais les peuples, il est en train de souffrir, mais dans tous les côtés de la vie.
Est-ce que, justement, le principal responsable, est-ce que c'est Nicolas Maduro ou est-ce que c'est pas un peu aussi Hugo Chavez qui a indexé un petit peu l'économie sur le cours du pétrole, qui représente quand même 96% de l'économie vénézuélienne?
D'un côté, nos problèmes ne sont pas... une partie des problèmes ne sont pas nouveaux. Si on étudie l'histoire vénézuélienne, On est, depuis la découverte du pétrole, on est centré sur le pétrole et il y a des crises comme ça pile avant l'arrivée de Chavez. Il y avait la pénurie aussi de papier toilette, de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais la situation actuelle, avec un gouvernement qui connaissait l'histoire vénézuélienne, les principaux responsables seraient les gouvernements que pendant 20 ans, ils ont continué à centrer l'économie sur le pétrole et qui ont fait une gestion mais vraiment mauvaise. On a vu comment l'industrie des entreprises nationalisées par le gouvernement qui se chargent de l'internet, de l'électricité, du gaz, on voit l'inefficacité. Ma mère, elle n'avait pas de gaz pendant 2 mois. On voit des vieilles personnes, des personnes âgées qui vont chercher les gaz à côté d'une prison parce que c'est là où il y a les sièges de l'entreprise de l'État et qui doivent transporter des trucs qui pèsent 20 kilos chez eux parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui va créer un système où tu recevras les gaz chez toi. Ça, c'est un exemple. Pas d'Internet. Si tu as la mauvaise chance que l'appareil d'Internet, la box Wi-Fi, elle est morte. Enfin, c'est un État failli dans ce cas-là parce qu'on dépend du gouvernement pour tous les services, mais il n'est pas efficace. Et ça, on le voit depuis longtemps et maintenant, depuis 3 ans, c'est encore pire. Donc, le premier responsable, c'est le gouvernement. Et puis, il y a le prix du pétrole qui est tombé. Donc là, on dépend absolument de cette ressource naturelle.
Et donc, pour vous, là, la solution, ce serait que Maduro quitte le pouvoir ?
On a besoin d'un gouvernement de transition pour 1000 raisons. Ça, on n'en parle pas du tout en France. Mais il y a des gros problèmes de trafic de drogue au Venezuela. Et ça, on le voit. Il y a d'énormes problèmes de corruption. Ça existait avant ce gouvernement, mais ça s'est intensifié d'une façon terrible. Et on a un problème de démocratie énorme qui, si bien quand il y avait Chavez, les gens ils l'ont élu. Il a fait plein de référendums, ça tout le monde le sait. Et d'ailleurs, c'est l'argument des chavistes. Mais aujourd'hui, on avait élu un parlement, élu directement par le peuple. Ils avaient la majorité à 3/4 de tous les parlements. C'était d'opposition pour la première fois depuis 1999. Du coup, le gouvernement, ça lui a pas plu. Ils ont dit que c'était pas légitime parce qu'il y avait eu de la fraude, une fraude qui n'était pas vraie. Et puis, ils ont choisi une assemblée nationale constituante qui a remplacé complètement le parlement. Et ils ont choisi que des gens de leur parti pour créer cette assemblée nationale constituante. Donc, la seule institution qui nous représente, elle est muette. Elle peut rien faire parce qu'il y a le tribunal suprême de justice derrière, qui est partidaire du gouvernement aussi, qui bloque toute décision. Donc, les Vénézuéliens, on n'a pas de voix et on a besoin d'un changement de gouvernement. Ça, c'est sûr.
Parce que là, c'est votre point de vue, hein, le changement de gouvernement. Mais Nicolas Maduro a été donc élu l'année dernière par une grande majorité. C'était 76% des Vénézuéliens qui le voulaient comme président. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse encore voter pour lui ?
Alors, en fait, il faut voir vraiment étudier ces élections parce que là, vous trouverez toutes les réponses. Il a été élu, il y avait 30% de participation. Ça revient à 3 millions de personnes. Et au Venezuela, c'est très connu et mes proches sont témoins. Il y a énormément de fonctionnaires depuis le gouvernement de Chavez parce qu'ont nationalisé énormément d'entreprises et il y a 3 millions de personnes environ qui travaillent pour le gouvernement. Et on sait que les personnes qui travaillent pour le gouvernement sont forcées à voter pour parce que sinon, ils perdent leur travail. Donc ça, d'un côté, c'était que 3 millions de personnes qui l'ont choisi. Et là, OK, vous allez me dire, OK, Macron, il a été choisi avec 10%, j'en sais rien. Mais le problème de l'illégitimité de Maduro aujourd'hui, c'est la forme. Comment ces élections ont été convoquées? Elles ont été convoquées d'une façon totalement illégitime. Et depuis le jour 1 de ces élections, la communauté internationale et les Vénézuéliens ont refusé la légitimité de cela. Je vous explique dans 2 mots. Le problème des élections, c'est que déjà, ils ont été convoqués par une assemblée nationale constituante. Je viens de vous expliquer que cette assemblée est à 100% pro-gouvernement. C'est le parti qui est dedans. Il n'y a pas de débat. Tout est élu par unanimité. C'est absolument pro-Maduro, pro-Chavez. Quand on a voulu les lire, quand ils ont dit, on va faire cette assemblée, dans la constitution, il y a écrit, il faut faire un référendum pour que les gens disent s'ils veulent une assemblée nationale constituante ou pas. Ça, ils ne l'ont pas fait. Et là, c'est une violation directe de la Constitution. Et là, il n'y a rien à dire parce que c'est écrit et ils ne l'ont pas fait. Chavez, en 99, avait fait une Assemblée nationale constituante. Il a fait un référendum et les gens, ils ont dit « Oui, on veut une Assemblée nationale constituante ». Ce pas-là, ils ne l'ont pas fait. Cette Assemblée, de facto, il est légitime parce que le peuple, il n'a pas décidé de l'avoir. Et les personnes qui sont dedans, quand on a voté pour ces personnes, il n'y avait pas de représentation. Il n'y avait pas une personne qui ne soit pas du gouvernement. Et dans les élections de mai 2018, où Maduro, entre guillemets, a été élu, il y avait 3 personnes, il n'y avait aucun parti d'opposition. aucun parti. Toutes les personnes qui pouvaient se présenter d'opposition, ils sont en prison, en exil, ou du coup, ils sont inhabilités politiquement. Je ne sais pas si on dit
ou
comme
ils ont,
ça.
Ou ils avaient boycotté aussi les élections municipales et régionales d'avant.
On les a boycottés parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de, comment dire, des représentants d'opposition.
De représentation, oui, vous voulez dire.
Comment, en fait, comment on ne peut pas boycotter une élection alors qu'on n'a pas de représentants pour qui voter? On va te dire vote pour lui, Maduro, ou vote pour deuxième Maduro.
Et de ce fait, comment vous avez pris l'arrivée de Juan Guaido quand il s'est autoproclamé président par intérim?
Et surtout, je complète, Juan Guaido, est-ce qu'il est foncièrement plus légitime en s'autoproclamant président?
Alors, déjà, on l'a choisi directement pour qu'il soit parti du Parlement. Et il est le président du Parlement. Et dans la Constitution vénézuélienne, il y a écrit « s'il n'y a pas de président légitime ». Et si vous avez compris par rapport au mai 2018, Maduro n'est pas légitime. Et ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, il n'est pas légitime tout simplement. Du coup, dans la Constitution, il y a écrit « c'est le président du Parlement vénézuélien qui prend le pouvoir, pas de façon définitive. Un président par intérim ». Qui va faire un gouvernement de transition pour avoir des élections. Moi, je ne le veux pas de président pour 5 ans parce que je ne l'ai pas élu. Mais ce n'est pas ce qu'il propose. Ce qu'il propose, c'est faire un gouvernement de transition pour pouvoir convoquer des élections, qu'on puisse voter. Ça, c'est tout ce qu'il répète à chaque fois qu'il sort dans la rue. Et tous les Vénézuéliens, on est conscients de ça.
Et donc, maintenant qu'il y a deux présidents qui ne comptent pas lâcher, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Est-ce que, pour en finir avec cette crise? Il faut négocier? Il faut...
Est-ce qu'il faut l'intervention diplomatique aussi de l'Union européenne, comme le réclament certaines personnalités, notamment à gauche en France?
Une intervention dans quel sens?
Une intervention diplomatique, j'entends, c'est-à-dire négocier directement avec le Venezuela, avec Nicolas Maduro pour orchestrer une sortie de crise.
Alors, si la négociation veut dire qu'il négocie sa sortie, oui, parce qu'il n'a pas de place politiquement, il n'a pas été élu. Donc, on veut, pour moi, la décision qu'il faudrait prendre... C'est gouvernement de transition et qu'on puisse avoir l'opportunité d'élire une personne qui nous représente. Et ça, il pourrait le faire avec un référendum pour savoir si les gens sont d'accord. Et si Maduro n'a pas fait un référendum pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Guaido propose, il l'aurait fait. Mais il sait qu'il n'est pas soutenu. On a choisi un parlement avec un 70% de participation et on l'a choisi 3/4 du parlement d'opposition. Et les élections qui viennent de se faire en mai 2018, c'était 3 millions de personnes. Et on l'a choisi, ils n'ont presque pas réussi à le choisir avec des personnes forcées à le choisir.
Merci Hilary Contreras pour cet éclairage du Venezuela, de la situation au Venezuela.
On pourrait en parler en effet des heures. Merci en effet Hilary Contreras d'être venue. Merci à vous Florine Boukhalifa ainsi qu'à Rudy Pupin pour la présentation et la préparation de ce dossier. 16h57 sur Radio Campus Grenoble, Microcité, ça continue.
Microcité jusqu'à 17h.
Et si on s'était trompé totalement sur l'origine du château des Templiers et des Chirolles? Il a été longtemps présenté comme un vestige de l'époque des croisades aux alentours du XIIe siècle, mais selon le GRAF, le groupe de recherche archéologie patrimoine histoire des Chirolles, il n'en est rien. Les racines de ce monument seraient plus récentes. Alors qu'en est-il réellement? Tel Stéphane Bern, Luc Chemla a remonté le temps et s'est rendu sur place.
Da Pacem Domine, un chant traditionnel de l'ordre du Temple, une musique qu'on aurait donc pu entendre dans le château des Templiers à Échirolles. Évidemment que non, pour Marc Mingalerme, journaliste à la retraite et membre du GRAF.
L'imagerie populaire a dit, il y a un château à côté de la commanderie templière, c'est le château des Templiers. Mais en fait, en aucun cas, il n'y a pas de documents qui attestent, qui disent que les Templiers étaient ici. C'est vrai qu'il y a une proximité géographique qui est un peu troublante. Ils ont peut-être été propriétaires du terrain, mais quoi qu'il en soit, on n'a rien du tout qui atteste leur occupation de ce lieu, la construction, etc.
Il a fallu un an et demi de recherche et des heures passées aux archives d'Échirolles et du département de l'Isère, mais c'est pas tout.
On s'est aussi basé sur des inventaires, et en particulier à la Révolution, qui répertoriaient les biens des Templiers. Et on parle jamais d'un château. On parle jamais d'un gros bâtiment comme ça.
Construit en réalité au tout début du XVIIe siècle, ce château a longtemps été un lieu de vacances pour la famille de Pisançon, membre de la noblesse dauphinoise. Transmis de génération en génération, il est ensuite donné à une famille échirolloise en 1896. Il est désormais la propriété d'une entreprise de transport public. Le sourire aux lèvres et les yeux pétillants, Marc Mingalerme décrit l'extérieur.
Il y a une porte quand même qui est vraiment dans le style, l'entrée vraiment dans le style de la Renaissance, avec un fronton un peu néo-grec comme ça, des décors moulurés, ces espèces de grosses boules comme ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Ils ont un bassin d'agrément qui est tout à fait typique d'une demeure d'humble du XVIIe. Venez voir comme c'est dessiné. Regardez cet agrément. On entend encore le bruit de l'eau qui cascade là le long du mur. C'est absolument magnifique.
De quoi lui faire dire ?
C'est un peu le Versailles des Chirolles, quoi.
Mais ce temps est révolu. Laissé à l'abandon, il est devenu le paradis des squatteurs et a connu 4 incendies en 6 ans. Sur les murs, du lierre, des tags, à l'intérieur, toutes sortes de déchets et même des pneus. Un crève-cœur pour ce passionné d'histoire.
C'est vraiment une désolation. J'ai quelques photos anciennes où on voit, il avait de la gueule, hein. C'était joli ce petit manoir. Il était plus aux normes, la société a voulu aller dans des bureaux plus modernes, plus fonctionnels. Personne ne veut acheter ce bâtiment et ne veut investir de l'argent pour le mettre aux normes, faut le mettre aux normes.
L'avenir du château a beau être incertain, son origine est désormais connue. Mais Marc prend cette fausse croyance avec philosophie.
Et si les gens fantasment un peu autour des Templiers, mais que ce fantasme leur permet de s'intéresser à l'histoire, c'est très bien.
Le reportage de Luc Chemla en terre échiroloise. Bientôt 17h dans Microcité, on retrouve Xavier Ponroy pour le rappel des titres.
Jean-Claude Roman restera en prison. Le tribunal de grande instance de Châteauroux a rejeté cet après-midi sa demande de remise en liberté conditionnelle. Condamné à perpétuité pour le meurtre de 5 membres de sa famille en 93, il a déjà purgé 22 ans de sa peine de sûreté. La mosquée Al-Kouaoutar, située rue des Trembles à Grenoble, sera fermée pendant 6 mois. L'appel porté par l'association musulmane dauphinoise a été rejeté cet après-midi par le tribunal administratif. Et puis enfin un point sur la météo du week-end à Grenoble. Il fera froid avec des températures entre 1 et 2 degrés, 12 degrés maximum. Demain, le soleil sera voilé par quelques nuages. Dimanche, c'est la grisaille qui l'emportera avec de la pluie dans l'après-midi.
Bravo. Microcité.
17h02 sur Radio Campus Grenoble. Toutes les bonnes choses ont une fin. Microcité, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur campusgrenoble.org. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bon week-end à tous. Portez-vous bien.